Michel de Lignes, conte pour nos neveux. Était-ce hier, il y a 1000 ans, ou sera-ce l'histoire de demain, je l'ignore. Je sais seulement qu'il y avait un choix, un riche financier, si riche que s'il avait empilé toutes ses pièces d'or, il aurait formé une tour plus large et plus vaste et plus haute que la fameuse tour, la tour de Babel, elle-même. Ce financier, qui menait à bien chaque jour des opérations fructueuses à tous les marchés du globe, du monde, et qui depuis un quart de siècle qu'il spéculait, ignorait ce que c'est qu'un échec, qui voyait à ses pieds tous les empereurs et tous les rois les plus puissants de la terre, avait cependant un gros chagrin. Marié depuis 20 ans à une fille d'un duc, héritier d'un nom biblique, il n'avait pas d'enfant, et à chaque nouvelle victoire remportée à la bourse, le créancier gémissait. « À quoi bon, Seigneur, me donner tout cet argent, puisque tu me refuses un héritier ?» Le milliardaire était croyant et ne manquait pas chaque soir de remercier Dieu pour la pluie d'or qui emplissait ses coffres et d'implorer une nouvelle bénédiction, la naissance d'un enfant. Cette prière, après 20 ans de mariage, stérile, fut exaucée. La femme du roman financier mit au monde non pas un garçon, mais une fille. Et cette fille était laide. Elle était si laide que le médecin qui salua son entrée dans la vie ne put s'empêcher de s'exclamer à mi-voix : Mais c'est pas un enfant, c'est un singe. En effet, l'être grêle, velu, contourné, qui était issu de l'union d'une duchesse et d'un capitaliste, ressemblait bien plus au petit d'un gorille qu'à un enfant. La nourrice, une femme campagnarde, qui l'enveloppa dans des linges anges de soie et de dentelle, pleura en le voyant et faillit perdre son lait. Le financier et sa femme se désolèrent de plus belle, se demandant ce qui leur avait valu cette malédiction. « Mais pourquoi m'accables-tu? Pourquoi, Seigneur ?» cria un soir le milliardaire en pleurant. Et une voix répondit « Pour tes péchés !» Le financier et sa femme se regardèrent en haussant les épaules, persuadés qu'un mauvais plaisant se moquait d'eux. Puisque l'or affluait toujours dans leur coffre, évidemment, cette bénédiction divine reposait sur eux. En attendant, la fille croissait chaque jour en laideur. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu un pareil laideron. Elle avait des bras de pieuvre et sa tête affectait la forme d'un gros rein. En outre, elle était manifestement avait un goût pour toutes les choses immondes. Le financier, sa femme, aimait ce monstre en dépit de sa laideur. Il sentait palpiter en lui leur chair et leur sang. Ils auraient donné de bon cœur la moitié de leurs millions pour que les autres gens regardassent leur fille aussi belle que sa fortune. Le désir plutôt exprimé fut exaucé. Tous les journaux célébrèrent en vers et en prose la beauté séraphique de l'héritière. Quelques poètes, entraînés par l'inspiration, détaillaient, peut-être avec plus d'assistance que de tact, les adorables notes de la jeune fille, la grâce de son sourire, les lignes harmonieuses de son buste. Et le financier déclara ouvertement qu'il n'accepterait aucune critique sur la personne de sa fille, et que quiconque s'aviserait de suggérer qu'elle n'était pas aussi jolie, qu'elle pourrait l'être plus, serait à la jamais privé de son concours, et quiconque, au contraire, aurait, par n'importe quel moyen, servi à répandre la renommée de la jeune fille et la renommée de la beauté de son héritière, n'aurait qu'à passer à la caisse pour toucher un chèque. Pendant que le petit laideron devenait chaque jour de plus en plus affreux, le bruit courait dans tout l'univers qu'une fille d'une beauté merveilleuse devait hériter des milliards du grand financier, et à force de dire partout et de lire l'éloge de la beauté de leur unique enfant, le père et la mère en finirent par la trouver jolie à souhait. Une seule inquiétude, c'était d'empêcher leur fille d'apercevoir ce visage dans une glace. Mais le financier s'était tiré d'affaires plus compliquées que celle-là. Il fit briser tous les miroirs de la maison et déclara que quiconque suivrait son exemple recevrait pour chaque glace détruite un miroir de diamant. Dès lors, il put dormir tranquille. Sa fille ne courait plus le danger de trouver un miroir sur son chemin. Elle atteignit sa 15e année sans avoir jamais aperçu son visage, et croyant toujours, se croyant la plus belle femme du monde. Lorsqu'elle eut 16 ans, on jugea le moment venu de la marier. Les parents se flattaient que le mariage pourrait embellir leur fille. Oh, les prétendants ne manquèrent pas. Il en va de tous les pays, d'Amérique, d'Australie, d'Afrique. Et le financier choisit un parent éloigné, le petit-fils du duc, son beau-frère, un des noms les plus glorieux du Gotha. Mal lui en prit, car le jeune cousin, tout en consentant de très bonne grâce à entrer en possession de la tour d'or du financier, ressentit pour sa jeune épouse, le jour même de la noce, une invincible aversion. Cette antipathie grandissait chaque jour. La jeune femme, encore timide, pleurait en silence et ne se plaignait pas. Mais au bout de quelques mois, pourtant, Elle hasarda un léger reproche. Mais son mari entra en fureur. Et elle prit peur et partit de se taire. Et comme il semblait de bonne humeur un soir, elle lui dit d'un ton câlin, « Voici 2 ans que nous sommes mariés. Vous ne m'avez même pas embrassé une fois. » Alors le jeune homme, fou de colère, oublia toute mesure. Il courut à sa chambre et en revint avec un petit miroir à la main. « Tenez, regardez-vous, » dit-il à sa femme, « et vous comprendrez pourquoi je ne vous ai pas embrassé. » Elle n'avait jamais vu de glace et prit sans méfiance le miroir que son mari lui tendait. À la vue de son gros rein, elle poussa un cri d'horreur et dit « Non, ce n'est pas moi. Vous avez inventé cet instrument pour travestir mon visage. » cria le mari exaspéré. « Votre père a pu faire disparaître tous les miroirs en jetant des diamants à tout le monde, mais moi. J'ai conservé cette petite glace en cachette. Regardez ce vilain museau. Moi, j'en ai assez. » C'était trop pour la pauvre femme. Elle comprit la vérité et, défaillante, d'une voix dit plaintive, « Que vous êtes cruel, il ne me reste plus qu'à mourir. Je sais que vous souhaitez ma mort. Eh bien oui, j'en ai assez de voir tous les jours cet horrible visage. Allez-vous pendre ? Non, noyez-vous, poursuite plutôt, dans l'étang du parc. Là, vous n'aviez pas la permission de vous baigner. Vous pourrez, la dernière fois, contempler vos grâces. » Elle enfouit son visage dans ses mains et courut vers l'étang. Avant de plonger dans l'eau limpide, elle se pencha anxieusement sur le bassin pour se mirer. « Oh non, il n'a pas menti. Je suis laide. Je suis laide et horrible. Oh, je ne veux plus vivre. » Elle inclina son front sur l'eau et s'apprêtait à se laisser choir, la tête baissée dans l'eau, lorsqu'une voix cria « Arrête ! Arrête !» Elle regarda autour d'elle, elle ne vit personne. « Contemple-toi de nouveau dans l'eau !» dit la voix mystérieuse. Elle obéit et tressaillit de joie. L'image qui lui apparut n'était plus celle de toutes les femmes qu'elle avait jamais vues. De grands yeux bleus comme le ciel souriaient dans un visage rose aux dents très délicats qu'encadrait une épaisse tresse d'un blond d'épi mûr. « Mais qui es-tu ? Tu m'as rendue si belle !» cria-t-elle. Et la voix répondit « Tu as reconnu ta laideur. Tu es sauvée. » Et un éclat de tonnerre formidable retentit et toute la terre trépida. La jeune femme, terrifiée, courut au palais de son père, mais elle ne trouva ni le financier, ni le financier, ni sa mère, ni son mari, ni le duc, ses cousins. Une nouvelle humanité avait surgi et elle acclamait joyeusement une société nouvelle. Était-ce d'hier? Était-ce d'il y a 1000 ans? Ou sera-ce l'histoire de demain?